Bonjour et bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Bram FM, il est 13h passé de 4 minutes, nous sommes le vendredi 26 mai 2023, humour, tourisme et jardinage au menu de cette émission et pour bien terminer cette semaine, tout d'abord j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin à mes côtés, bonjour Benjamin. Alors Benjamin, il a un problème technique, donc tu peux prendre un autre casque si celui-ci ne marche pas. Et bonjour quand même, Alexandra est avec nous dans le studio pour nous faire voyager en Corrèze. Bonjour Alexandra.
Bonjour Eve, bonjour à tous.
Alexandra, as-tu bien un retour ?
Oui, parfait.
Super.
Mon micro, ça fonctionne, ça grésille incroyable.
Bon, à 13h30, vous entendrez le journal régional proposé par le Graal. Enfin, le melon et sa culture en deuxième partie d'émission avec Pauline Sutter. La Fédération Limousine d'Orpaillage organise son trophée annuel au lac d'Arfeuil à Saint-Thierry-la-Perche les 27 et 28 mai. Vous l'entendrez à 13h50. C'est le sujet de la chronique en Limousin. Et puis à 13h55, je vous donnerai la météo de votre week-end, c'est promis. Vous êtes ici sur Bram FM jusqu'à 14h et nous sommes en direct. Et rebonjour Benjamin.
Rebonjour à toi Eve, comment ça va ?
Ça va très très bien. Enfin ça va bien, ça va très bien, et toi ?
J'ai le nez pris à cause du pollen et je souffre énormément.
Tu souffres de quoi ?
De nez qui coule, etc. Mais je crois pas qu'on est là pour parler de ma santé.
Mais écoute, je ne sais pas vraiment de quoi, pourquoi tu es là, donc je te laisse dérouler ta chronique avec surprise. Ne touche pas trop ton micro, il a un faux contact.
Oui, mais le problème, c'est que si je le lâche, il tombe. Ah, je remonte. Est-ce que là, c'est bon là ?
C'est bon.
Je ne bouge plus. Donc.
Le lâche-le.
Je le lâche, il tombe.
Bon, là, écoutez, allez-y. Je vous en prie, Benjamin, tentez de faire votre mieux.
Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue à Bram FM. Vous souhaitez écouter Vamos à Portugal, tapez 1. Vous souhaitez écouter Vous êtes ici, tapez 2. Vous souhaitez écouter Vertigo, tapez 3.
2.
Nous avons bien pris en compte votre demande. Souhaitez-vous une chronique humoristique ? Tapez 1. Une chronique sur une personnalité du Limousin, tapez 2.
1.
Vous avez demandé une chronique humoristique. Veuillez patienter le temps que notre chroniqueur se prépare. Bonjour à tous, c'est Benjamin et bienvenue dans Vous êtes ici. C'est l'heure de ma chronique sans nom où chaque mois je vous apprends quelque chose de pas ouf. Globalement, ça ne va pas vous élever intellectuellement parlant, mais ça vous permettra toujours d'avoir une anecdote à sortir lors d'un dîner un peu trop long avec Tati. L'introduction de cette chronique a dû rappeler des traumatismes à certains. Votre box internet ne marche plus, vous décidez d'appeler le support et vous voici parti dans les méandres des centres d'appel. Tapez 1, tapez 2, tapez votre code d'abonné, faites un tour sur vous-même, dites oui très fort pour que le conseiller...
Faut lâcher le micro.
Mais si je le lâche, il tombe par terre.
Il faut prendre celui qui est à côté.
Alors, je change de micro. Et oh, incroyable. Alors, dans le jeu... où j'en étais ? Donc, tapez votre code d'abonné, faites un tour sur vous-même, dites oui très fort pour que le conseiller informatique vous comprenne. Je n'ai pas saisi la demande, veuillez recommencer. Oui, gueulerez-vous un peu plus fort pour que le système de reconnaissance vocale fonctionne. Après des longues minutes à écouter les 4 saisons de Vivaldi, avec les mêmes phrases qui tournent en boucle, voilà que le téléphone décroche et se coupe aussitôt. Et oui, manque de bol, on vous a coupé la chic et il n'y a plus qu'à tout recommencer. Alors, ces centres d'appel téléphoniques de plus en plus présents se nomment également hotline, dans le langage familier, la ligne chaude en français. Mais alors, d'où ça vient ? Sous ces airs de titres de vieux films pornographiques des années 80 se cache une histoire bien plus sombre, ayant eu un rôle crucial dans la géopolitique actuelle. Rien de ça. Laissez-moi vous parler du téléphone rouge. Alors, le téléphone rouge, à ne pas confondre avec le téléphone rose, c'est le petit nom que l'on donnait à la ligne téléphonique, la ligne de téléphone direct, qui reliait Washington avec Moscou en 1963, donc en pleine guerre froide. Cette ligne d'urgence permettait aux deux principaux blocs de la guerre froide de communiquer plus facilement afin d'éviter des malentendus. Le Kremlin et la Maison-Blanche avaient donc à leur disposition une ligne à n'utiliser que quand la situation l'exigeait et quand la situation était chaude, la hotline donc. On doit l'invention de cette ligne téléphonique à Thomas Schelling, un économiste américain également responsable de la sécurité nucléaire, qui s'est dit « Mais Vlatipat, ça serait dommage, une troisième guerre mondiale à cause des problèmes de communication. Vas-y, on met un téléphone. » Des années d'études pour une idée toute bête mais qui charme les deux puissances, car il faut dire qu'avant la création de cette ligne, la communication entre Khrouchtchev et Kennedy mettait plus de 6 heures à se transmettre, parce qu'il fallait imaginer qu'on donnait le message papier à un gars en vélo qui pédalait, allait à un autre poste, qui prenait un cheval, qui pédalait, le bateau, tout. Bref, ça prenait un temps monstre. Et donc finalement, Au début, Khrouchtchev, il était pas chaud. Tu vois, il se dit, ouais, moi, les téléphones, je suis pas trop pour.
Il était pas chaud pour la ligne chaude.
C'est ça, il était pas chaud pour la ligne chaude. Et en fait, alors, est-ce que tu connais la crise des missiles à Cuba en 1962?
Non.
Eh ben, moi, je ne la connaissais pas non plus avant, mais en gros, pour te la faire courte, ça a failli déclencher des guerres de missiles nucléaires. Donc là, Khrouchtchev a fait, ouais, go pour le téléphone, comme ça, on n'aura plus de problème de communication. Alors, bien que ce soit contre-intuitif, au début, le téléphone ne pouvait pas transmettre la voix, car on jugeait que c'était trop dangereux et sujet à des interprétations. Imaginez la scène, hein, Kennedy est en train de passer un message, il renverse son café, et là il sort un bon « Oh shit motherfucker !» et hop, il y a Khrouchtchev qui se pense insulter, escalade, missile, explosion, fin du monde. Bref, on s'est changé des mots, et les mots allaient de centre d'appel en centre d'appel. Or jugez plutôt, hein, la première ligne de la hotline, ça faisait Washington, Londres, Copenhague, Stockholm, Helsinki, et enfin Moscou, tout ça avec une sorte de télégraphe. Donc des grosses lignes, hein, on devait bien s'amuser. Et en fait, dans chacune de ces villes, il y avait un centre et des types qui étaient chargés de traduire le mot pour son voisin. Une usine à gaz efficace qui s'est vue perfectionner avec le temps. Hein. Par exemple, en 71, on a vu les satellites se rajouter. Puis ensuite, en 84, on a eu les fax, incroyable. Et en 2008, et là, tu vas pas me croire, le téléphone rouge a permis de parler.
De communiquer plus facilement, tu
veux dire ? Avec la voix. C'est-à-dire que c'est en 2008, voilà, que le téléphone rouge a pu vraiment parler. Alors évidemment, vu de l'importance de cette ligne, les messages étaient cryptés via une clé différente à chaque message. Et malgré toutes ces complications pour se comprendre, des amitiés sont nées entre agents des centres d'appel qui aimaient bien mettre en post-scriptum un message pour son collègue du pays voisin.
Il y a peut-être même des amours qui se sont construits comme
mais
ça.
Mais sans doute, j'ai vu, il y avait, alors, ils se souhaitaient...
Des enfants
ils souhaitaient des, alors peut-être pas non plus, mais je sais qu'ils souhaitaient des bons anniversaires, des trucs comme ça. Donc c'est assez rigolo. Alors par curiosité, je me suis renseigné sur les premiers messages échangés entre les États-Unis et l'URSS en 1963, pour tester le système. Ah, par exemple, le premier SMS de l'histoire était un « Joyeux Noël », alors le premier message de la hotline. Les opérateurs américains partent sur une phrase possédant toutes les lettres de l'alphabet latin et tous les chiffres. Alors, je vais essayer de vous la dire avec mon accent anglais magnifique. « The quick brown fox jump over the lazy dog back. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. »
Et ça veut dire... Two...
Ouais, mais je préfère les dire en français. Effectivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le renard brun rapide a sauté par-dessus le dos du chien paresseux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Que c'est beau, que de la poésie. Incroyable. Alors, côté URSS, on est parti sur une description du soleil couchant sur Moscou. Alors, j'ai essayé de retrouver le texte, mais sans succès. Quel dommage, moi qui ai toujours apprécié le charme bucolique de la campagne russe, me voilà déçu. Et en fait, pendant toute la journée, les deux pays s'enverront des poèmes et des extraits d'articles sur la nature pour voir si tout fonctionne. Et tout fonctionnait bien parce qu'en fait, il fallait s'envoyer des messages un peu nuls, un peu gnurgnants. Parce que imagine, t'envoies un message qui pouvait se comprendre différemment. Ben, c'est pas bien, quoi.
Déjà, le premier message avec le... Enfin, en fait, tout est sujet à l'interprétation,
C'est surtout, et surtout dans le contexte de la guerre froide, on pouvait toujours extrapoler un message. Et c'est pour ça que je me demande quel poème a pu envoyer à l'URSS. Enfin, ça devait être fantastique. Moralité de l'histoire, hein, la clé de la paix, c'est la communication ou l'intimidation, c'est selon.
Merci beaucoup, Benjamin. C'est toujours appréciable d'apprendre des choses avec toi.
Voilà, et maintenant vous saurez, hein, vous qui nous écoutez, que si vous tombez sur une hotline, un centre d'appel, bah, c'est un peu grâce à Khrouchtchev et Kennedy. Voilà.
Merci beaucoup, Benjamin. On se quitte avec le titre de Billie Eilish, I didn't change my number.
Ça veut dire je n'ai pas changé de numéro.
Voilà.
Ok. I didn't change my number. I only changed who I replied to. Laura said I should be nicer, but not to you. I love her, you were mad at me, text. Should've guessed that you would think I was upset. You're obsessed. Don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean. I didn't change my number. I only changed who I believe in. You were easy on the eyes, eyes, eyes. But looks can be deceiving. I gotta work, I go to work. You don't deserve to feel so hurt. You got a lot of fucking nerve. I don't deserve. So Don't take it out on me. I'm out of sympathy for you. Maybe you should leave before I get too mean and take it out on you and your best friend too. I should have left when Drew said you were bad news.
Sur Bram FM avec le titre I Didn't Change My Number.
Vous êtes ici avec Ever Marie.
Et nous poursuivons notre émission en direct dans le studio de Bram FM avec toi, Alexandra. Rebonjour.
Rebonjour.
Et aujourd'hui, tu viens nous parler d'un. Alors, tu viens nous expliquer, nous redéfinir et évidemment nous faire parcourir le territoire corrézien via une notion, le géocaching.
Tout à fait, c'est le mot du jour, c'est ça, le géocaching. On va parler donc géocaching, mais pas n'importe lequel, le Terra Aventura. Alors derrière ces mots bizarres se cache une chasse au trésor, mais pas n'importe laquelle, une chasse au trésor 2.0. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un jeu grandeur nature, une aventure à la découverte de notre patrimoine et qui a attiré, ce qui n'est pas rien quand même, 245 000 visiteurs en 2022 en Corrèze.
Et le double quasiment de l'année précédente.
Exactement, c'est vraiment exponentiel, ça a beaucoup de succès. Alors je vous explique tout de suite comment y jouer et je vais vous donner également quelques conseils pour être un bon géocacheur. Mais attention, J-30, dans un mois, la nouvelle saison va ouvrir. Il y a plus de 600 parcours en Nouvelle-Aquitaine et 60 en Corrèze. Et attention, spoiler, en fin de chronique. Alors, pour ce géocaching, en fait, le but du jeu, c'est de résoudre des énigmes pour trouver le trésor. Ces balades sont des circuits pédestres en boucle de 3 à 5 km en moyenne, parfois plus. Alors, il y a des circuits pédestres, mais aussi vélos. L'intérêt de Terra Aventura, c'est qu'ils sont accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et encore mieux, c'est gratuit. On joue à son rythme, quand on est dispo, seul, en famille ou entre amis.
Alors, qu'est-ce qu'il faut pour jouer ?
Alors, il suffit simplement de télécharger l'appli gratuite Terra Aventura sur son téléphone et créer son profil, son nom d'équipe. Et après, vous avez accès à plus d'une soixantaine de chasses au trésor sur toute la Corrèze. On peut choisir son circuit selon le thème, histoire, savoir-faire, gastronomie, selon la durée de la balade que l'on souhaite faire, donc le kilométrage, la difficulté du terrain, en fonction des courtes pattes ou des sportifs qui composent notre équipe. Alors je dis courtes pattes pour les enfants, mais on peut être très surpris parce que lors de ces chasses au trésor, en fait, les enfants galopent beaucoup plus vite que les parents, ils ne sont pas du tout fatigués, du moins tant qu'ils n'ont pas trouvé le trésor. Donc on joue avec les coordonnées GPS, alors c'est très simple d'utilisation, et surtout avec le patrimoine et la nature qui nous entourent. L'idée c'est d'observer, de réfléchir, de déduire et de trouver les indices cachés autour de nous.
Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, Alexandra ?
Oui, bien sûr. Alors par exemple, les questions c'est « Regarde ce bâtiment emblématique, combien vois-tu d'ouverture ?» ou bien « voilà, quel est ce chiffre ?» ou « Cherche la plaque sur la maison natale de cette personnalité, quelle est sa date de naissance, additionne les chiffres, etc. » En fait, tout est en lien avec l'histoire racontée, qui est différente pour chaque balade. On parle de notre patrimoine, des sites naturels, de l'histoire corrézienne avec le Taco par exemple, avec Pompadour, la cité du cheval, le Mont Bessou. Mais la finalité, c'est quand même de trouver un trésor. Concrètement, tous ces indices nous amènent à la cache finale. Les chiffres trouvés précédemment complètent une coordonnée GPS finale qui nous amène au trésor.
Un trésor ? Alors, quel genre de trésor quand même ?
Alors le trésor, c'est une bouteille remplie de poise. Alors, je vous explique, parce que déjà, c'est vrai que dans Terra Aventura, il y a un vocabulaire particulier, on en reparlera un petit peu plus tard. En fait, les poi, ce sont des badges, comme des pins en fait, à l'effigie des petits personnages qui peuplent l'univers Terraventura. Il y a un effet collection car il en existe une trentaine. Par exemple, vous avez le personnage qui s'appelle Zart, qui vous emmène à la découverte de l'art dans tel ou tel village. Un autre qui s'appelle Zéphin, pour parler de la gastronomie locale. Zéroïque, pour l'histoire. Zéidon, pour une balade sur le thème de l'eau. Et certains se font même à vélo, comme je disais tout à l'heure. À vélo, ça s'appelle Ziclou, ou bien de nuit, The Knight, tout avec un petit Z. Il existe également dans le jeu, des badges virtuels où on débloque des succès.
Alors, Alexandra, comme tu es une fine joueuse, est-ce que tu peux donner des conseils pour les futurs géocacheurs ?
Oui, bien sûr. Alors, comme vous l'aurez compris, le géocaching Terraventura, c'est un monde à part entière. Il y a une communauté de joueurs qui est très importante. Comme on l'a dit précédemment, le jeu a son propre vocabulaire. Alors, pour vous aider à entrer dans le jeu, voici quelques explications. Donc, on a parlé tout à l'heure de poi. Alors, les poi, ce sont les petits personnages qui prennent la forme de badge et qui vont vous guider tout au long de votre parcours. Les enfants les adorent et ils aiment vraiment les collectionner. La cache, quand on parle de cache, c'est le trésor. C'est la bouteille, la boîte où il y a ces petits poi. À l'intérieur de la cache se trouve le logbook, c'est un carnet sur lequel on peut écrire un message. Le mot mystère, il ne faut pas oublier de le saisir à la fin du jeu sur notre application. Il permet de déclarer sa découverte sur l'application et d'obtenir des bonus. Et après également un mot important, c'est Moldus. Alors les Moldus, ce sont les personnages qui ne jouent pas, enfin les personnes même pardon, qui ne jouent pas à Terraventura. Et prenez garde de vous cacher d'eux lorsque vous découvrirez le trésor. Ils ne doivent pas savoir où il est et ce qu'il en est. Et à la fin du parcours, on peut partager son expérience avec les autres joueurs, son ressenti, on aime ou on n'aime pas, ce qui aide et nous aide à choisir un prochain parcours, donner des conseils, des photos. Alors les photos de la cache, c'est interdit, hein, sinon on spoil vraiment. Mais voilà, l'idée c'est de partager son aventure.
Oui, c'est donc une aventure très interactive.
Oui, vraiment. Et en plus, dans les bouteilles, outre les poi, vous trouverez plein de petits objets drôles et hétéroclites. En fait, la tradition veut que l'on prenne l'un de ces petits cadeaux et qu'en échange, on en laisse un autre. Ça peut être un petit jouet, des œufs en chocolat, voilà, très connus, une bille, un petit bracelet brésilien. C'est assez étonnant, en fait, ce qu'on peut trouver. Et côté pratique, j'insiste là-dessus, c'est important, il faut quand même prévoir de bonnes chaussures et de l'eau, parce que ça reste quand même une petite rando. Hein. Et bien sûr, vous pouvez aussi, un conseil qui est important, c'est télécharger les données avant de partir, télécharger le circuit. Comme ça, on n'utilise pas son forfait et on peut continuer le jeu même s'il n'y a pas de réseau sur place. Et sur certains circuits, il y a un QR code à flasher, ça c'est un héritage de la période Covid. Voilà, il y a différentes possibilités. En fait, en conclusion, c'est donc un jeu pour toute la famille. On partage, on vit une expérience. Et surtout, on redécouvre notre patrimoine en faisant un pas de côté. Les pépites de nos territoires sont nombreuses. J'arrête pas de vous le dire régulièrement et j'en suis intimement convaincue. Et là, c'est vraiment l'occasion de parcourir des sites moins connus, mais tout aussi étonnants. C'est un concept limousin qui existe depuis 12 ans et qui s'est étendu maintenant à toute la Nouvelle-Aquitaine. Un concept original et unique, propre à notre région. Il y a 600 aventures à vivre, comme je le disais, donc on n'est pas prêt de s'ennuyer.
Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la prochaine saison ?
Voilà, c'est ça. On en parlait en début de chronique. Attention, spoiler, si vous ne voulez pas écouter, en savoir trop, vous bouchez les oreilles. Mais la nouvelle saison ouvre le 24 juin. Alors, je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va être gâtés en Corrèze. Cette année, il va y avoir 6 nouveaux parcours. Alors, 2 sont déjà connus par les géocacheurs, mais ils ont été revus et améliorés pour une nouvelle expérience. Et pour les 4 autres, vous allez être étonnés. Mais surtout, il va y avoir plusieurs nouveaux poi, donc de nouvelles thématiques qui sont uniques en Corrèze et très très rares en Nouvelle-Aquitaine. Alors, on ne peut pas dire où se situent les nouveaux circuits, mais surtout, ne manquez pas le top départ.
Merci infiniment Alexandra de nous avoir parlé du géocaching, une vraie institution donc en Nouvelle-Aquitaine si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Alors hier on a reçu Isel Dijoux qui est venue nous annoncer le Baladoc Tula et qui cette année se délocalise pour aller sur Chaméra. Et toi tu fais partie des organisatrices bénévoles et donc tu vas couvrir notamment la balade dans Chaméra. Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'il y a à voir et à découvrir dans ton village ?
Oui, tout à fait. Effectivement, là, je mets une autre casquette en tant que coprésidente de l'association Chaméra Patrimoine et Histoire. Et effectivement, conjointement avec la mairie de Chaméra, avec les associations de la commune, l'AGLO, cette journée-là sur Chaméra sera vraiment pleine d'animations et de surprises. Il y aura beaucoup d'animations, comme je disais. Il y aura surtout aussi, nous, ce qu'on va faire, c'est une visite guidée du bourg avec, on a le château de la Vicomté de Turenne, on a bien sûr l'église et on a également la maison du général Hugo. Donc, de la famille de Victor Hugo. Et on aura une explication sur ces sites emblématiques de notre bourg. Et il y aura une traduction en simultané, en occitan, qui sera faite.
Merci beaucoup. Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations concernant ton association qui parle donc du patrimoine de Chaméra ?
Alors, sur Internet, donc Chaméra Patrimoine et Histoire, .com.
Et pour toutes les informations concernant le tourisme en Corrèze, rendez-vous sur le site corrèzetourisme.com. qui, je le redis une énième fois, est un site incroyablement bien fait avec toutes les informations, notamment de tout ce qui se passe sur le territoire corrézien dans l'agenda. Et puis c'est très bien fait si on veut être en famille sur des événements sportifs. D'ailleurs, je tiens à dire que le week-end prochain, le week-end du 3-4 juin en Corrèze, il se passe énormément d'événements sur le territoire. N'hésitez pas donc à aller faire un tour sur le site Corrèze Tourisme. Et puis moi, je vous redonnerai évidemment des informations sur tout ce qui se passe. Et donc, on redonnera les infos sur ce qui se passe pour Baladoc, qui va cette année, on l'a dit, du côté de Chaméra. Merci infiniment, Alexandra, pour cette chronique. On va écouter un titre hommage à Jean-Louis Murat, qui s'est donc éteint hier, l'Arc-en-Ciel.
Je suis parti comme tu le sais à l'improviste. Pas eu le temps non de faire mes adieux. L'instant fut bref, puis vint encore plus vite la flèche de lumière qui te perça le cœur. Si l'arc-en-ciel aimait sa dure d'amore, pourra-t-il un jour te retrouver? Avec les couleurs peut-on effacer la plus avilissante des misères? Je suis devenu un coucher de soleil. Je parle comme les feuilles d'avril. Je vis enfin dans chaque voix sincère. Avec les oiseaux, je vis le chant subtil. Ici, mon chant le plus beau, le più denso, ne s'exprime que dans le silence, mais ça s'ensemble. Tellement de choses que je n'ai pas comprises, qui passent comme étoiles filant dans mon cœur. Ai-je jamais eu du plaisir à porter cette valise infinie? Tanto amo caro davvero, e tante cose sono rimaste da dire. Écoutes-tu toujours la musica vera? Et cherches-tu toujours à comprendre? Devenu un coucher de soleil, je parle comme les feuilles d'avril. Je vis enfin dans chaque voix sincère. Avec les oiseaux, je vis le chant subtil. Ici, mon chant le plus beau, le più denso, ne s'exprime que dans le silence, mi sensio. Mi manchi tanto, amico caro davvero, et tante cose sono rimaste da. Écoutes-tu toujours la musique à vela? Et cherches-tu toujours à comprendre? Écoutes-tu toujours la musique à vela? Et cherches-tu ses poils décapillés? Écoutes-tu toujours la musique à vela? Et cherches-tu ses poils décapillés?
Jean-Louis Murat avec le titre L'Arc-en-Ciel. L'auteur, compositeur et interprète Jean-Louis Murat est donc mort hier à l'âge de 71 ans. C'est ce qu'a annoncé son manager, personnalité connu pour ses propos controversés, il laisse derrière lui une trentaine d'albums et quelques succès au début des années 90. Le chanteur, oui, est donc décédé cette année, c'est ce qu'a annoncé France Inter. Donc c'est un auteur, Donc il est né en 1952 à Chamalières dans le Puy-de-Dôme, c'est à la fin des années 70. Philippe, ça te fait super rire de me perturber alors que je suis quand même en train de rendre un hommage à Jean-Louis Murat. Vas-y, prends l'antenne pour te...
Je m'excuse auprès de la famille Murat, mais je ne ris pas de Murat, parce que je sais que Murat était quelqu'un qui savait rire, mais il ne le montrait pas souvent. Et je regrette de ne pas avoir été à Tulle la semaine dernière.
Oui, parce qu'il a donc fait son... Il est monté pour la dernière fois sur scène, sur la scène, là, la salle des Lendemains qui chante ici à Tulle. C'était donc son dernier passage. Et évidemment, toute l'équipe de la salle des Lendemains qui chante a annoncé son choc sur les réseaux. Voilà, donc c'était aussi notre petite contribution à cet hommage aujourd'hui à ce grand artiste, on peut le dire, auvergnat.
Et notre journaliste était très perturbé et très ému parce qu'il s'est trompé de Jean-Louis quand il a fait son journal ce matin, peut-être certains d'entre vous s'en sont aperçus. Excusez-le, c'est l'émotion.
Il a donc annoncé la mort de Jean-Louis Aubert, ce qui n'est pas le cas. C'était donc Jean-Louis Murat, mais qui n'est pas moins un grand artiste français. Dans quelques instants, nous poursuivons notre émission avec Pauline Sutter et nous parlerons de la culture des melons. Pour l'heure, il est 13h30 sur Bram FM et c'est l'heure évidemment de retrouver le journal régional.
L'actualité en Limousin et Périgord, le journal des radios associatives libres. Sébastien Péjou.
Bonjour à tous. À Brive ou à Chabanais, des syndicats, des élus et des usagers ont manifesté hier en fin d'après-midi pour la défense du service public ferroviaire. En Charente-Limousine, c'est la question de la réouverture de la ligne TER Limoges-Angoulême qui est de nouveau posée. Une ligne fermée depuis 2018 et remplacée par un bus. Inacceptable pour les manifestants, surtout à l'heure de la transition écologique. Les regards sont désormais tournés vers le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Les TER seront à l'ordre du jour d'une réunion à Bordeaux le 12 juin prochain. Autour de 150 élèves du lycée Edmond Perrier de Tulle ont manifesté leur solidarité à l'égard des surveillants hier entre midi et 2. Les élèves évoquent des problèmes de dialogue avec la direction de l'établissement. C'est un exercice d'incendie un peu raté qui aurait déclenché la colère du proviseur envers le personnel. Des surveillants se seraient sentis méprisés, d'où ce mouvement de soutien de la part des élèves. Les futurs trains intercités de la ligne POLT sont présentés à la foire Limoges Expo jusqu'au 29 mai. C'est appelés Oxygène sont conçus par l'entreprise espagnole CAF. Construits en Alsace, les 28 trains seront répartis entre les lignes Paris-Clermont et Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. 700 millions d'euros, entièrement financés par le ministère des Transports. Isabelle Gaillardot, chef du projet Oxygène pour Intercité, est au micro Kaola FM de Charline Hebdo.
C'est un train qui a 20 places de plus que son équivalent aujourd'hui, donc déjà il y a un peu plus de sièges. Ce sont toutes les nouveautés des trains modernes, donc de l'information en temps réel, avec des écrans dans toutes les voitures, du Wi-Fi bien sûr, bien qu'il y en ait aujourd'hui, des prises électriques à tous les sièges parce qu'on en a absolument besoin, première et seconde, de la vidéosurveillance, très appréciée depuis ce matin, on a beaucoup de commentaires positifs, c'est rassurant pour les gens. On a 10 places vélo non démontées, donc le vélo peut être monté sur réservation et branché, on a des prises électriques. Et pour finir, une personne à mobilité réduite pourra monter en autonomie une fois les travaux dans les gares réalisés et pourra choisir sa classe de voyage. C'est le premier train qui le permet.
Le premier train Oxygène part la semaine prochaine en essai. Les voyageurs devraient pouvoir l'utiliser à partir de fin 2025. En attendant, une maquette est visible à la Foire Expo de Limoges jusqu'à lundi prochain. Laurence Marandola, paysanne dans l'Ariège, est élue porte-parole nationale de la Confédération paysanne. Suite au congrès national du syndicat agricole qui s'est déroulé il y a quelques jours en Haute-Vienne, un nouveau comité national est élu pour 2 ans. Thomas Gibert l'intègre, il est maraîcher sur la ferme collective de la Tournerie à Coussac-Bonneval dans le sud de la Haute-Vienne. Alors que la Sainte-Claire, la fête foraine de Tulle, bat son plein depuis près d'un mois, le Lions Club de Tulle a décidé d'organiser une course de canards. En anglais, on appelle ça une dog race. L'enjeu est d'acheter des petits canards et d'espérer que ces derniers passent la ligne d'arrivée en premier pour obtenir un lot. Écoutez les explications de Thomas Borda, membre du Lions Club Tulle Doyen.
On pouvait faire juste une tombola et vendre des billets, mais non, on a décidé de vendre des billets qui sont représentés le jour du 27 mai par un lâcher de canard en plastique dans la Corrèze, qui va faire un périple de 500-600 mètres et qui, au bout de ce petit périple, va arriver à un entonnoir, puisque canalisé par des barrières anti-pollution et autres, hein, puisque je tiens à préciser aussi, aucun canard ne sera laissé dans l'eau. Le canard qui arrive en premier au bout de l'entonnoir va donner une couleur, c'est-à-dire que c'est le canard bleu, rouge, vert, peu importe, celui qui va arriver en premier, et nous irons tirer dans l'urne rouge le gagnant de la voiture, et puis ainsi de suite sur plus d'une quarantaine de lots qui sont aujourd'hui déjà disponibles.
Propos recueillis par Thomas Vandendrich. Le coup d'envoi de la Dog Race sera donné demain après-midi à 15h. Merci à Olivier pour le montage de ce sujet et bonne chance pour vos petits canard. Et puis les 12 heures de Vassivière auront lieu samedi de midi à minuit. Le Vassivière Club Tout Terrain organise une nouvelle édition d'Endurance Quad. 45 équipes de quadeurs sont attendues à Royères de Vassivière. La remise des prix aura lieu dimanche. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Belle fin de semaine à tous.
Vous êtes ici avec Avermarie.
Et vous retrouverez le journal régional à 17h et à 18h30. Vous êtes ici sur Bram FM au 98.3 ou via notre site internet bramfm.com où vous pouvez retrouver toutes nos émissions en podcast. Nous sommes ici dans le studio jusqu'à 14h. Dans une quinzaine de minutes, vous entendrez la chronique en Limousin. Mais elle m'a rejoint dans le studio et aujourd'hui nous allons parler de la culture du melon. Bonjour Pauline.
Bonjour Ève. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du melon, parce que je ne sais pas vous, mais moi, ce sont mes fruits préférés. Alors j'adore leur parfum, leur jus rafraîchissant, et surtout, je pourrais en manger des quantités astronomiques. Un entier, pour moi toute seule, c'est parfaitement envisageable. Donc je me suis décidée à en cultiver chez moi cette année, même s'il paraît que c'est quand même une culture assez compliquée, donc je ne sais pas dans quoi je me lance, mais je vous invite à ce qu'on se lance gaiement dans cette aventure melonesque ensemble. D'ailleurs, rien n'est impossible. Mes parents, qui n'y connaissaient rien, ont eu 3 petits melons l'année dernière sans rien faire. Et je vous entends là, vous, qui avez un balcon et qui adorez aussi le melon, mais vous vous dites que la place vous manque. Mais non, n'oublions pas que le melon est une plante grimpante, donc vous pouvez la cultiver sur votre balcon et par bonheur, écoutez la suite de cette chronique. Commençons donc par le commencement, le semis. Je ne vous cache pas qu'il est déjà trop tard ce mois-ci pour semer du melon et espérer en récolter par la suite. Mais pas de panique, vous pourrez acheter des plants tout prêts et vous préparer pour l'année prochaine. Là, on est vraiment dans l'anticipation chez Bram FM. Ce qu'il faut savoir, c'est que la culture du melon est assez longue. Il faut compter 4 mois entre le semis et la récolte de votre premier melon. Donc, petit calcul... Vous semez en avril pour récolter en juillet-août. N'essayez pas de semer plus tard. Le melon est particulièrement frileux. Il a l'accent du sud, hein, car il déteste le froid léger et arrête sa croissance dès que les températures descendent sous les oulala à 15 degrés. Donc pour éviter cela, semez donc de la mi-février à la mi-mars en intérieur dans des températures situées entre 20 et 25 degrés. En pleine terre, donc l'année prochaine, vous sèmerez en avril quand le sol est réchauffé, c'est-à-dire à partir de 15 degrés.
Est-ce que la graine du melon est-elle compliquée à semer ? Alors, est-ce qu'il y a un sens pour la graine du melon ?
Alors, non, il n'y a pas de sens, mais quand vous semez, choisissez déjà des pots assez grands, car une fois germés, vos plants vont poireauter, même si ce ne sont pas des poireaux, au moins 2 mois dans ces contenants, donc ils risquent de rapidement jaunir, c'est-à-dire avoir faim, s'ils sont dans des petits poquets. Donc, vous semez 3 graines en ne gardant que le plus beau des 3 et procédez de la même manière en pleine terre en mettant 3 graines. Vous multipliez par 3 les chances de survie de vos jeunes plantules contre les attaques foudroyantes des limaces. Allez, c'est bon, vos plants ont enfin germé. Ce n'est que 2 mois plus tard, quand vos plants ont 4 vraies feuilles, que vous pourrez les installer dans votre potager. Donc 2 mois plus tard, on les a semés en février-mars, recommençons les calculs. Donc c'est en avril-mai. C'est-à-dire maintenant. Courez donc en acheter pour en planter, oui, mais pas n'importe où.
Alors moi, je les aurais bien mis, par exemple, à l'ombre, dans une terre bien solide, bien grise, bien argileuse et pauvre surtout.
Alors oui, Ève, c'est tout à fait l'inverse. Le melon aime le plein soleil ou à la rigueur la mi-ombre si la canicule est annoncée. Oui, parce que comme toutes les cucurbitacées, ça rejette beaucoup d'eau par leurs larges feuilles et ça en demande beaucoup aussi en retour. À la mi-ombre, vous limitez cette évapotranspiration et cette consommation en eau, donc c'est parfait. Installez-le au pied d'un treillis pour le faire grimper. Il lui faut également un sol meuble et profond, pas une terre dure et argileuse, pour que ses racines grandissent facilement et surtout un sol bien riche. Il appartient à la famille des cucurbitacées, vous savez, les fameuses courges qui poussent directement dans votre compost. Lui, pareil, s'il pouvait, il pousserait sur votre compost.
Eh bien super, et j'imagine qu'après tout ça, on n'a plus qu'à patienter en l'arrosant pour avoir de beaux melons, non ?
Alors oui, bien sûr, le melon est autant gourmand en eau qu'en matière organique, mais le truc, c'est qu'on ne le regarde pas pousser sans rien faire. Pour qu'il soit productif rapidement, il est nécessaire de le tailler. Et oui, c'est assez peu courant sur les légumes du potager, mais il faut tailler et cela s'effectue assez tôt dans la vie de notre melon. Dès que le plant a 4 vraies feuilles, vous taillez au-dessus de la 2e feuille. Pourquoi ? Ça a l'air d'être du masochisme à ce niveau-là, non ? Le plant est tout petit et ça y est, on taille déjà. Eh bien non, en fait, c'est pour induire 2 ramifications, 2 tiges si vous préférez, et c'est primordial pour la suite. Dès que chacune de ces 2 ramifications a 4 vraies feuilles, vous taillez juste au-dessus de la 3e feuille pour obtenir une 3e génération de rameaux. Celle qui va porter les fleurs femelles et celles qui donneront plus tard des fruits. Sinon, on pouvait aussi attendre patiemment que le melon produise lui-même plusieurs rameaux, mais ça prend du temps. Et le temps que les melons se forment et paf, c'est déjà les gelées automnales et boum, vos melons sont morts. Lorsque les melons apparaissent et se forment, il faut encore tailler en ne gardant que 2 feuilles au-dessus de chaque melon afin que le plant arrête de se concentrer sur la production de feuilles plutôt que sur la maturation de ces délicieux fruits. Enfin, il faut lui dire en quelle langue en fait.
Alors, pendant que tu énumères l'intégralité de ces bonnes actions pour avoir de beaux melons, j'avoue que moi je m'y perds un petit peu. Est-ce que tu peux donc venir à mon secours ?
Oui, tu as raison. Voici donc un petit récapitulatif sur la culture du melon. À la plantation, exposez votre melon plein soleil ou à la mi-ombre si la canicule est annoncée et mettez du compost dans son trou de plantation. 3 semaines plus tard, apportez un engrais riche en potasse pour favoriser la floraison et donc la production des fameux melonettes. Oula, on est descendu dans le sud-sud là. Hein. Avec du purin de consoude. Taillez dès l'apparition des 4 premières vraies feuilles et arrosez 2 fois par semaine. Et bien sûr, vous paillez.
Merci Pauline. Est-ce que tu peux donc, maintenant qu'on a récapitulé tout ce qu'il y a à faire avant, passer à la récolte ? Est-ce que c'est compliqué ?
Alors là, le stade de la récolte du melon, c'est comme pour le choisir au marché, c'est galère. S'ils étaient doués de parole et qu'ils nous disaient « je suis mûre là », ce serait plus simple, non ?
Alors oui, en plus, alors j'avoue déjà que c'est galère, un peu aussi parce que pour avoir de bons melons bien mûrs, et parce que aussi souvent il y a quand même une déception quand on arrive, on choisit ceux qui sont durs et fadasses, et aussi parce qu'il y a une question de taille, alors je sais pas si on y reviendra, mais moi mes melons ils ont stagné à une petite taille, et après ils ont stagné très longtemps à cette petite taille, alors comment est-ce qu'on choisit, comment on choisit un bon, quels sont les indices d'une bonne maturité ?
Alors bah justement, on va se transformer en détective, et quand vous observez que la feuille située juste au-dessus du melon est fanée et qu'elle se détache facilement avec le pédoncule, c'est que c'est bon. Si le melon se craquelle autour de son pédoncule, c'est génial. Et enfin, si les fruits sont colorés et bien gros, c'est le top départ pour la récolte.
Bon, je dois avouer que tu m'as un peu réconciliée avec la culture du melon, sachant que l'année dernière, j'en avais 2 microscopiques et que j'ai fini par ramasser parce que je me suis dit, bon, quand même, là, on est bientôt à Noël, donc je pense que je vais pouvoir enfin le sortir. Alors, est-ce que tu aurais une idée de variété vraiment adaptée à notre région ?
Oui, alors la variété qui s'adapte le mieux surtout partout, c'est le melon charentais. C'est celui que j'ai pris. Et un autre melon qui résiste bien à des températures plus basses, c'est d'ailleurs, à mon avis, la raison pour laquelle tes melons sont restés tout petits, c'est qu'il faisait trop froid, hein. Qui peut être cultivé au nord de la Loire et qui n'a pas besoin d'être taillé, c'est le petit gris de Rennes. Je teste actuellement ces 2 variétés cette année et pour le moment, ce sont mes plants de melon charentais qui sont plus vigoureux. Chers auditeurices, je vous remercie d'avoir écouté cette chronique. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à aller voir sur mon site jardinerbioblog.com. J'ai écrit des articles sur le sujet. À vos calendriers, dans le cadre d'un partenariat avec une boutique de thé bio en vrac qui s'appelle Mademoiselle Libellule et qui est située rue Saint-Martin à Brive, nous proposons une animation à la découverte des senteurs et des couleurs. Au programme, on déguste différents thés et on crée un potager fleuri et odorant pour attirer les abeilles. Il y aura aussi une histoire de lasagne, mais chut, c'est secret. Rendez-vous donc le 11 juin à 15h à la grotte de Saint-Antoine à Brive. Enfin, si vous avez besoin d'un coup de main au jardin ou avec vos plantes d'intérieur, qu'il ne faut pas négliger, hein. C'est pas parce qu'il fait beau dehors qu'on arrête de s'occuper de ses plantes d'intérieur. Mais que vous ne savez pas comment faire, rendez-vous sur mes réseaux sociaux, tapez Pauline Jardina Coach ou appelez-moi au 06 67 27 89 66. Je me ferai un plaisir de vous répondre.
Le groupe Melon sur Bram FM avec le titre No Rain. Et je remettrai évidemment tous les titres musicaux qui sont passés dans cette émission et ainsi que toutes les références de tout ce qu'on a abordé dans l'émission sur le podcast qui sera disponible donc à 14h30 sur le site de Bram FM. Alors, le week-end prochain en Corrèze, c'est très 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 chargé. Donc, je voulais commencer de vous faire un petit retour sur les événements à ne pas manquer. Je voulais d'abord vous rappeler que l'association King Mushroom Family Corrèze propose l'événement à la découverte des champignons de Corrèze Où et comment trouver et reconnaître les champignons de printemps? C'est une session de rattrapage pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir à la première. C'est le 3 juin 2023, rendez-vous à 14h sur le parking du château de Sédières pour une randonnée en suivant le guide Romain afin de découvrir les différents biotopes corréziens. Participation libre mais réservation obligatoire. Plus d'informations au 07 67 70 62 97 ou sur la page Facebook l'association King Mushroom Family Corrèze. Il y a évidemment le festival Baladoc Tula. La médiathèque de Seillac vous invite à une soirée enquête samedi 3 juin. Le mystère du manuscrit animé par les gardiens du lac. C'est tout public à partir de 8 ans. C'est gratuit mais sur inscription. Et c'est par équipe de 4. Ça sera donc à la médiathèque de Seillac. Et c'est auprès d'elle que vous pouvez retrouver toutes les informations. Ensemble pour vaincre les maladies rares, dimanche 4 juin 2023, il y a une marche solidaire au profit de l'association Prad et Willy. C'est à Tulle, sur le parvis de la cathédrale. Donc il y a un départ à 8h45 avec une visite guidée et commentée. C'est une balade de 4 km, donc il faut compter à peu près 2h15. Il y a 7 points d'arrêt. Il y aura une place assez limitée pour les participants, c'est 40 participants grand max, avec évidemment un livret de visite et descriptif du parcours et sur les points d'arrêt. L'autre parcours, c'est un départ à 9h. C'est une balade solidaire, donc en accès libre. 4 km, il faut compter la 1h30 de balade estimée. Pareil, il y aura un livret qui sera donné avec le descriptif du parcours et les points d'intérêt remis à chaque participant. L'inscription est gratuite, mais aux dons. Les dons sont au profit évidemment de l'association, je rappelle l'association Prad et Willy. Voilà, plus d'informations sur le site tulleencorrèze.com. Samedi 3 et dimanche 4 juin, c'est la fête du jeu, donc c'est à la salle polyvalente de la Grolière. C'est entrée et animation gratuite, buvette et restauration au profit de l'APE. Voilà, donc c'est une soirée jeu de société, jeu de rôle, avec évidemment des éditeurs et des auteurs de jeux. Donc c'est l'école de l'APE de la Grolière qui propose ça. C'est donc de samedi de 14h à minuit et dimanche de 10h à 18h. Vous retrouvez plus d'informations sur Je m'amuse, donc J-E-U-X, m'amuse, m'amuse en Corrèze sur Facebook. Voilà un début d'aperçu de ce qui se passe le week-end prochain. C'est une liste non exhaustive et je ne manquerai pas de continuer de vous rappeler tout ce qui va se dérouler. Je vous préviens, c'est assez énorme. En tout cas, c'est un week-end où il ne faut rien prévoir parce qu'il va vraiment se passer beaucoup de choses sur le territoire corrézien. Dans 5 minutes, je vous parlerai du temps de demain. Il est 13h50. Vous êtes ici sur Bram FM. Nous sommes jusqu'à 14h en direct dans le studio. Et c'est l'heure de la chronique en Limousin proposée par le Graal. À tout de suite.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine. Le rendez-vous de ces territoires et ses acteurs. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
La fédération Limousine d'Orpaillage organise son trophée annuel au lac d'Arfeuil à Saint-Hyères-la-Perche les 27 et 28 mai. L'endroit n'est pas choisi au hasard. 2500 ans de ruée vers l'or ont animé le sud de la Haute-Vienne. Le métal précieux est exploité à Saint-Hyères-la-Perche et au Chalard. Une histoire aurifère que Philippe Roubinet connaît bien. Il est membre de la fédération Limousine d'Orpaillage. Après avoir passé 20 ans à la mine du Bournex sur la commune du Chalard comme mineur de fonds, il est devenu orpailleur professionnel, une passion qu'il partagera ce week-end au lac d'Arfeuil.
Traditionnel tout à fait, puisque c'est une activité qui est pratiquée depuis l'Antiquité, depuis nos ancêtres celtes gaulois.
Philippe Roubinet, chercheur d'or.
Qu'est-ce qui fait qu'on devient chercheur d'or? En ce qui me concerne, je suis né au Chalard, donc Chalard, mine d'or du Chalard. Lorsque j'étais tout petit, mon père m'a montré qu'il y avait des anciennes mines d'or dans la région. Donc ça m'a fait rêver et j'ai dit quand je serai grand, moi je serai chercheur d'or. Alors bien sûr, ça peut paraître stupide, mais ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais un petit peu plus vieux, les mines d'or ont réouvert et j'ai travaillé 20 ans dans les mines d'or du début à la fin de l'exploitation et j'ai eu la chance d'y faire tous les métiers de mineur de fonds jusqu'à géologue et j'ai rencontré des chercheurs d'or amateurs qui s'amusaient donc à prospecter les ruisseaux et les rivières de la région. De ce fait, je me suis mis et quand la mine a fermé en 2002, j'ai décidé de m'installer comme chercheur d'or.
Les ruisseaux, les rivières limousines sont propices à la quête de l'or ?
Il y a de l'or forcément dans nos sous-sols et donc par érosion dans nos ruisseaux. Ensuite, c'est tout un art pour trouver quelques petites poussières et paillettes d'or. Mais il y a quand même une bonne dose de savoir-faire si vous voulez pratiquer.
Comment se procède une activité d'orpaillage dans la région? Alors, il faut aller dans les ruisseaux, armé de son pan et de sa bâtée plate.
D'abord, savoir qu'il y a des rivières comme des rivières domaniales où il faut obligatoirement l'autorisation de la préfecture. On n'a pas le droit de creuser n'importe où. Ensuite, vous pouvez y aller à peu près dans la période de l'été, selon la classification des rivières. Il vous suffit, sinon, de l'autorisation, ça c'est obligatoire, du propriétaire terrien des abords du ruisseau ou de la rivière. Après, il vous faut juste un petit peu de matériel. L'idée est de prospecter un peu, laver un peu les sables pour essayer de voir s'il y a quelques poussières d'or. C'est une technique qui peut paraître très simple, bien sûr, quand on connaît. Mais pour des novices, c'est pas si facile que ça.
Plus d'une vingtaine de participants est attendu samedi au lac d'Arfeuille pour le trophée d'orpaillage de Saint-Thirier. Ils s'affronteront lors de 3 épreuves pour trouver le maximum de paillettes d'or avec une bâtée traditionnelle, le fameux chapeau chinois, un pan et une bâtée plate.
Alors ceux qui vont venir viennent de différentes régions de France. Ce sont donc des gens qui ont des licences au niveau de la Fédération française d'orpaillage. Et bien sûr, certaines journées sont organisées en groupe un peu partout en France, hein, parce qu'il y a différents trophées ou différentes rivières où on organise des sorties de recherche.
Et le public est invité à venir assister à cette journée. Le lendemain, ce sont les spectateurs qui pourront essayer.
Et puis ce week-end, si vous le désirez aussi, il y aura une petite visite gratuite sur les sites aurifères au village de La Roche-l'Abeille, à côté de Saint-Thirier. Il suffit de s'inscrire d'ailleurs à l'office de tourisme, et puis vous verrez une petite balade avec une approche sur la géologie et l'histoire des mines d'or de l'époque celte.
Et puis il y aura une initiation à l'orpaillage dans l'après-midi.
Et il y aura après une petite initiation permanente le week-end ou l'après-midi. Il y a un concours le samedi. Là, c'est pour les initiés. On fait un concours, un trophée entre nous, entre professionnels, on va dire, mais vous pouvez quand même venir vous initier. Et surtout, le dimanche après-midi, le petit concours qui sera organisé pour les tout-petits. On fait un petit trophée pour les enfants de moins de 10 ans. Ceux qui veulent, ils peuvent déjà s'entraîner un petit peu le matin. S'ils veulent, il y aura quelqu'un. Et puis l'après-midi, on va faire un genre de petit jeu concours où tout le monde, bien sûr, repartira avec quelque chose. Il y a une petite inscription. Pareil, vous vous renseignez au niveau de l'office de tourisme. Et puis, on va vous orienter sur la méthode. Et puis vous apprendrez plein de choses avec vos enfants. Justement, c'est l'occasion de faire une belle sortie et de venir nous voir les pieds dans l'eau.
L'idée de ce trophée, c'est d'une certaine manière de perdurer la tradition en Limousin. Ça fait écho également à l'histoire, au patrimoine de Saint-Thirier et de sa région.
Tout à fait, ça c'est très important. Si on a fait ça sur Saint-Thirier, c'est pas par hasard, c'est qu'en fait nous avons une histoire locale très importante et très riche au niveau des mines d'or. Alors cette histoire démarre depuis l'époque celte, où on avait quand même des centaines, voire des milliers de mines d'or dans toute la région. Pour cela, je peux pas tout vous expliquer, bien sûr, je vous invite à venir nous voir et vous aurez une approche et une petite explication sur ce patrimoine. Il faut le savoir quand même extraordinaire, mais surtout unique en France et en Europe.
Tout le week-end, un espace or sera à la disposition du public avec un stand de la Fédération Limousine d'orpaillage, une exposition de matériel, de la vente de livres autour du thème de l'or ou encore des tubes à essai avec des paillettes d'or. Le trophée d'orpaillage de Saint-Thirier-la-Perche se déroule samedi et dimanche au lac d'Arfeuille.
La chronique quotidienne du groupement des radios associatives libres en Nouvelle-Aquitaine est à retrouver sur legraal.info. Le Graal, producteur de proximité en Nouvelle-Aquitaine.
Et vous retrouverez la chronique en Limousin sur les ondes de Bram FM à 18h, mais pour l'heure.
Météo de plastique, des pains à l'acrylique, sous ces airs pandémiques, je veux la météo prophétique.
La météo prophétique de votre week-end en Corrèze. Eh bien, demain, samedi 27 mai, la matinée sera ensoleillée. Profitez-en, le ciel va se couvrir et des ondées éparses sont à prévoir un peu partout sur le territoire corrézien. Pour l'après-midi donc, des orages sont même attendus dans le nord et l'est du département. Dans la soirée, les pluies devraient s'estomper. Les températures matinales de demain seront comprises entre 15 et 19 degrés du nord au sud. L'après-midi, elles se maintiendront à la hausse malgré la perturbation. Il fera 23 degrés à Sornac, 25 à Saint-Hilaire-Luc, 26 à Trégnac, 27 à Uzerche et jusqu'à 28 degrés à Brive, Tulle-et-Beaulieu sur Dordogne. Dimanche 29 mai, c'est donc sous un beau soleil que la Corrèze va se réveiller. Là encore, des pluies devraient assombrir le tableau dans l'après-midi et des orages sont à prévoir sur l'ensemble du territoire en soirée. Côté Mercure, me direz-vous, eh bien, il fera légèrement plus frais que samedi. Alors pas grand-chose, hein, ça se joue à 1 degré. À l'heure du laitier, donc dès l'aube, il fera de 14 à 16 degrés du nord au sud de la Corrèze. pour votre après-midi dominical. On verra les températures grimper un petit peu pour atteindre 21 degrés à Aigurande, 24 à Aigleton, 26 degrés à Userche, 27 à Tulle et Argentat et jusqu'à 28 degrés pour Brive. Lundi 29 mai, lundi de Pentecôte, férié donc en France normalement. Le temps sera similaire à ce week-end sur le département corrézien. Grand soleil le matin, perturbation l'après-midi et risque d'orage en soirée. Vous avez compris, c'est le tempo hein, pour tous les jours à venir, en tout cas d'après Météo France. Les températures de la journée seront comprises entre 14 et 16 degrés du nord au sud de la Corrèze dans la matinée et de 26 à 20 degrés du sud au nord pour l'après-midi. Isabelle sera de retour mardi à 13h55 pour vous annoncer le temps de votre semaine, c'est promis. C'est la fin de ce direct et de cette émission et aussi de l'émission Vous êtes ici pour la semaine. Un grand merci à Benjamin, Alexandra et Pauline. Merci à vous auditeurs et auditrices. Merci à toutes celles et ceux qui sont passés par le studio cette semaine. Si vous voulez réécouter une émission, allez sur le site de Bram FM dans l'onglet Vous êtes ici. Vous pouvez retrouver l'intégralité de toutes les émissions qui sont passées donc ici. Voilà, vous pouvez les retrouver, les partager. D'ailleurs, il y a toutes les émissions en podcast sur le site de Bram FM. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et sur Facebook pour suivre notre actualité. La suite du programme sur Bram FM, eh bien, ce soir à 21h, c'est la DJ Academy, suivie de vraiment autre chose. Demain, il y a un après-midi jazz. Et puis dimanche matin, évidemment, après Corsica, il y a votre rendez-vous avec Vamos Até Portugal à 10h30 avec la famille Antunes qui vous emmène voyager. Moi, je vous retrouve donc mardi pour une émission rock'n'roll avec le groupe de rock Lagrange. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent après-midi, un très très bon week-end à l'écoute de Bram FM, bien sûr. Il est 14h.